Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité, entre d'un côté une mère, Sylvie, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteur dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Juline Anquetin-Rau, finaliste du Global Teacher Prize que l'on présente souvent comme le prix Nobel de l'éducation. Ce résultat récompensait son travail hors du commun autour de la classe autonome pour les adolescents pour qui elle enseigne depuis de nombreuses années. Inspirée des pédagogies alternatives, elle a mis en place des ateliers à réaliser de manière autonome ou en groupe et a ainsi changé sa posture d'enseignante. Alors qu'on entend beaucoup dire que ces pédagogies ne sont adaptées qu'aux petits effectifs ou aux plus jeunes, Juline nous prouve tout le contraire. Sa passion pour l'enseignement est débordante et on adore ça. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Juline.
Bonjour.
Bonjour Juline.
Alors pour la petite histoire, nous nous sommes rencontrés lors du congrès Innovation en éducation. Et vous êtes notamment venue voir Sylvie pour lui dire à quel point elle vous avait inspirée pour votre projet de classe autonome. On y reviendra. Car oui, vous avez été finaliste du Global Teacher Prize parmi plus de 8000 candidats dans 120 pays grâce à une méthode que vous avez construite pour les adolescents, inspirée de la pédagogie Montessori, Freinet, entre autres, mais aussi issue de vos intuitions pour un enseignement différent auprès des jeunes. Alors forcément, ça nous parle beaucoup et on a hâte d'en savoir plus. Vous avez connu lors de votre parcours de nombreuses étapes différentes, souvent difficiles, pour en arriver là aujourd'hui. Vous dites notamment du succès du Global Teacher Prize qu'il est né d'un échec. Pourriez-vous nous en dire plus ?
Bien sûr, avec plaisir. En fait, le Global Teacher Prize, il est venu récompenser un travail qui a démarré effectivement avec un échec, puisque moi, je voulais être professeur. Absolument, c'était une passion, donc j'ai utilisé la seule voie que je connaissais pour être enseignante. J'ai passé les concours de l'éducation nationale en 2008, le CAPES d'histoire-géographie et l'agrégation d'histoire. Et j'ai vraiment beaucoup travaillé parce qu'on m'avait dit que c'était très difficile. J'avais même commencé à les travailler un an avant parce qu'on m'avait dit vraiment que c'était, il fallait s'accrocher. Donc j'étais très très motivée. Et puis j'ai raté le CAPES à 3 points sur à peu près une centaine. Et ça a été un vrai crève-cœur. J'avais l'impression qu'on m'empêchait de faire ce que j'aimais le plus au monde. C'était vraiment vraiment très douloureux. Et j'ai décidé que c'était pas grave. Que si l'éducation nationale, la façon dont ils recrutaient les enseignants ne me correspondait pas forcément, tant pis, j'irai pas avec l'éducation nationale et puis j'essaierai autre chose. Donc je suis passée par un parcours un peu atypique, mais comme il y en a des centaines et des milliers en France, je suis allée travailler dans des toutes petites structures, des petites écoles. J'ai monté mon entreprise à 24 ans, toute seule, une auto-entreprise de soutien scolaire. Je suis allée travailler en Normandie, à Paris, jusqu'à ce que j'arrive au CFA Simone Veil de Rouen et que je me sente pousser des ailes pour innover. Voilà.
Comment vous avez trouvé cette force pour vous relever de cette étape qui devait être particulièrement difficile ?
La force, c'était la passion, en fait. C'était de dire, mais moi, je veux enseigner, c'est au plus profond de moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Et puis, quand j'ai raté le concours, j'ai dû trouver un travail l'année d'après parce que j'avais mis toutes mes économies, en plus, pour passer le CAPES et l'agrégation. Donc, j'avais plus rien, je pouvais pas me permettre de refaire une année d'étudiante. Donc j'avais trouvé un travail dans un collège, je faisais du soutien scolaire dans les collèges et le premier jour où je suis rentrée dans une salle de classe, vraiment ça a été la confirmation que c'était ça que je voulais faire. Et même mon compagnon de l'époque m'avait vu rentrer le soir, il m'avait dit, mais cherche plus, t'as trouvé ta voie, quoi. C'était vraiment ça. Donc elle est là, la force, elle est de cette passion que j'ai pour ce métier que je trouve extraordinaire.
Et qui dure toujours.
Ah oui, tous les jours.
Alors vous avez terminé dans le top 10 du Global Teacher Prize. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi consiste ce prix et pourquoi vous avez décidé d'y participer ?
Oui, alors en fait, pour l'expliquer simplement, c'est l'équivalent du prix Nobel, mais pour le monde de l'éducation, pour les enseignants. Donc c'est ouvert à tous les enseignants, hein, que ce soit de la maternelle à l'université. On a aussi des professeurs de musique, de danse, hein, qui concourent. C'est une compétition, enfin un concours qui récompense un professeur pour son travail exceptionnel. Alors la pédagogie en fait partie, mais pas seulement. Il y a de nombreux critères sur ce qu'on apporte au-delà de notre salle de classe, la reconnaissance qu'on peut avoir dans le milieu de la part de nos pairs, de notre direction, de nos élèves, de nos parents d'élèves. Il y a énormément de choses sur la formation du citoyen, sur les résultats qu'on peut avoir, sur ce qu'on a mis en place pendant le confinement, etc. Donc la pédagogie est un des critères, mais il y en a beaucoup d'autres. Et donc ça récompense les professeurs pour leur travail exceptionnel et pour la contribution qu'ils peuvent apporter à la profession. Moi, j'ai voulu le faire il y a 2 ans parce que je manquais d'une voix qui porte. J'avais expérimenté la classe autonome et le jour où je l'ai vue devant moi la première fois, j'ai eu l'impression d'avoir découvert le Graal et de me dire mais c'est incroyable, il faut pas que je garde ça pour moi, il faut diffuser cette méthode qui fonctionne et dont j'ai la preuve tous les jours que ça fonctionne devant les élèves. Et je me suis dit bah voilà, moi j'ai pas mon CAPES, je suis un petit professeur de CFA, qui va m'écouter quoi. Donc c'était ça l'idée, c'était de se dire voilà, si au moins je suis un jour dans le top 50, et ben peut-être que ça me donnera un peu de légitimité et un peu de poids pour parler de ce travail et de cette méthode.
Et vous avez fini dans le top 10, qui est assez exceptionnel.
Au-delà, voilà, au-delà de mes espérances, et je ne m'y attendais pas du tout.
Donc, et alors qu'est-ce qui fait selon vous ce résultat exceptionnel ? Pourquoi vous avez pu terminer potentiellement dans ce classement-là ?
Faudrait demander ça au jury du Global Teacher Prize. Je ne sais pas. J'ai cru pendant très longtemps que mon côté atypique m'empêcherait d'arriver aussi haut, parce que je me suis dit c'est difficile. Je suis difficilement qualifiable en quelques mots parce que j'ai mon travail de professeur d'histoire-géographie, éducation morale et civique, mais j'ai aussi mon agence de soutien scolaire à côté. Quand on me demande qu'est-ce que tu enseignes, je dis oh là là, mais tellement de choses. donc j'ai cru que ça serait compliqué et je crois qu'au final c'est ce qui a fait la différence. C'est ce côté atypique, c'est ce côté passionné, mais en même temps tous les gens qui postulent pour ce concours sont passionnés. Je crois qu'ils ont aimé l'histoire de la résilience, de l'échec. Je crois que c'est la méthode aussi, le fait de dire voilà, aujourd'hui moi je pense qu'avec une bonne méthode on peut tout changer. Je pense qu'une bonne méthode ça peut changer la vie, ça peut sauver des élèves. Et cette méthode-là, elle est applicable à n'importe quelle matière, à n'importe quel niveau. Bah ça donnait une portée à grande échelle et peut-être que c'est ça, mais peut-être que je me fourvoie complètement et que c'est pas ça du tout.
Non, hein. Oh, c'est certain que c'est en partie pour ça et je pense qu'il y a
un mélange. Voilà.
Voilà, il y a bien d'autres choses en plus. Et j'aimerais justement que vous nous parliez de votre méthode de la classe autonome et que vous nous expliquiez en quoi elle consiste et pourquoi elle fait autant de miracles, si on peut dire.
Oui, non, vraiment, miracle, c'est pas un mot exagéré. On peut l'utiliser. Moi, toutes les personnes qui sont venues voir la classe autonome l'ont dit comme ça, l'ont retranscrit comme ça. Ils m'ont dit, c'est incroyable ce qui se passe dans cette classe. On sent qu'il y a quelque chose de fort. Donc, la classe autonome, en fait, elle est divisée en 3 temps. Moi, j'ai des cours d'1h35, 1h40 à peu près au CFA. Donc, le premier temps, c'est un temps de cours que j'ai gardé, que j'ai voulu encore en cours classique, on va dire, hein, vraiment avec de l'information descendante, où je raconte des choses, où je pose des questions aux élèves. Il y a vraiment une interaction et une émulation du groupe. Donc ça, c'est 20 minutes. Ensuite, il y a un temps de vérification, justement, de ce qu'on fait de connaissances, donc avec des petits quiz. Alors moi, je les fais sur téléphone parce que les élèves adorent ça, mais on peut totalement le faire autrement. Hein. Et puis après, la grosse partie du cours, qui est à peu près 45 minutes, en fait, ce sont des ateliers J'ai mis en fait le programme et les compétences, les connaissances que je voulais qu'ils acquièrent dans des ateliers qu'ils pouvaient faire de façon autonome, qui sont tous autocorrectifs. Et les élèves ont une liste avec tous les ateliers, ils les font dans l'ordre qu'ils souhaitent, à leur rythme, ils peuvent le faire en groupe ou seul, ils le font autant de fois qu'ils veulent jusqu'à ce qu'ils aient l'impression vraiment que, ok, ils ont acquis. Si un atelier les embête, ils ont du mal à l'apprendre, et ben, ils peuvent totalement le poser, aller le reposer et aller en chercher un autre, et le refaire plus tard. Voilà. Et moi, j'observe ce qui se passe, j'aide les élèves, qui sont en plus grande difficulté, je les guide et je vérifie ensuite à la fin qu'ils ont bien fait les ateliers et je tamponne avec voilà un petit tampon leur feuille pour qu'ils sachent où ils en sont et la prochaine fois quels ateliers ils auront à faire. Et c'est à peu près 3 cours pour faire tous les ateliers.
Mmh. Oh, c'est génial. Et alors, pourquoi vous avez décidé de créer cette méthode? Pourquoi avoir changé votre mode d'enseignement?
Moi, j'ai toujours aimé innover, j'ai toujours aimé faire des classes dynamiques, j'ai toujours voulu que ce soit un plaisir d'apprendre, et je voyais bien que même avec toute l'énergie que j'y mettais, même en mettant de la vidéo, en mettant des exercices un peu différents, de supports différents, je perdais toujours les élèves. 1h35, c'était long, je voyais bien qu'il y avait des élèves qui s'endormaient, qu'il y avait des élèves à un moment donné qui s'ennuyaient, que ça créait parfois des problèmes de discipline, de bavardage. Et un jour, je suis tombée sur Internet, sur des vidéos des écoles des maternelles Montessori. Et je suis tombée complètement dénue en me disant, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais depuis 10 ans, en fait? Je suis pas dans la bonne... J'ai commis des erreurs, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, et maintenant, je comprends pourquoi. Et j'ai eu une obsession à partir de ce jour-là. Ça a été, est-ce que ça existe pour les adolescents? Est-ce que quelqu'un l'a pensé, ce truc-là, pour des adolescents? Est-ce que c'est bon de l'adapter à des adolescents? Est-ce qu'on peut complètement transposer ce qui se fait dans les maternelles aux adolescents? Donc, j'ai vraiment cherché si ça existait. Et c'est là que je suis tombée sur Sylvie, sur une vidéo sur Internet où, justement, elle expliquait ce principe d'exercice en mathématiques où ils avaient une liste avec des choses à faire et où ils travaillaient en autonomie. Et je me suis dit, ah, mais OK, ça, on pourrait l'adapter. Et je suis partie de là pour l'adapter. Et puis j'avais un cahier des charges qui était complexe parce qu'il fallait que ça fonctionne dans une classe de 30, il fallait que ça fonctionne avec des exercices qui étaient parfois difficiles, un peu conséquents, il fallait quand même que je fasse tout le programme, que je les prépare à l'examen. Donc voilà, il y avait tout ça, je voulais mettre tout ça en même temps, et ça, voilà, ça a bouillonné et ça a créé la classe autonome.
C'est incroyable. Et alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments qui ont inspiré, enfin quelques éléments de la pédagogie Montessori qui vous ont inspiré dans la réalisation de votre méthode?
Oui, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai regardé du coup le film Le Maître et l'Enfant, et c'est ça qui m'a vraiment beaucoup inspiré, le fait que les élèves puissent se lever pour aller chercher leur atelier, leur matériel, ça j'avais trouvé que c'était assez extraordinaire. La place de l'enseignant, le fait qu'il soit complètement qu'il soit en retrait et qu'il les laisse travailler sur du matériel autocorrectif, ça m'a beaucoup inspirée. Je me souviens quand j'ai regardé la première fois le film Le Maître et l'Enfant, au bout de 40 minutes je me suis dit, mais on n'a pas vu encore l'enseignant, il est où? On ne le voit pas, on voit que des enfants qui sont en train d'apprendre des choses, et je me dis, mais où est le prof? Et voilà, et ça a été ça a été quelque chose qui m'a beaucoup inspirée. Et puis après j'ai regardé aussi les travaux de Céline Alvarez sur avec les neurosciences, de qu'est-ce qu'on pouvait aller chercher dans la manipulation aussi. Donc Montessori m'a inspiré la manipulation, l'idée que il retenait mieux en manipulant, et ça je suis bluffée même encore aujourd'hui à chaque fois quand je les vois juste faire une carte sur une feuille avec un crayon, et quand je les vois manipuler, reposer avec des petits drapeaux ou manipuler des flashcards, je vois vraiment la différence.
Ouais, c'est dingue. Et vous utilisez aussi, j'ai vu dans certaines de vos vidéos, le matériel de Maria Montessori que vous adaptez pour les ados.
Oui, alors j'utilise pas beaucoup, mais j'ai les puzzles. Ouais. Les puzzles du monde. Je les ai juste un peu modifiés, parce qu'en fait sur les puzzles à Montessori, c'est juste le pays, et c'est un puzzle, donc c'est la pièce qui s'imbrique. Et en fait, moi, derrière, j'ai écrit les noms des pays, comme ça, ils les apprennent en les prenant et en les retournant. Et ça, c'est pareil, j'ai vu des élèves qui étaient en grande difficulté, hein, des élèves dans des classes de remédiation, être capables de m'apprendre tous les pays d'Asie ou d'Amérique latine en un quart d'heure.
Ouais, c'est incroyable.
Alors que c'est des élèves qui me disent, mais moi je suis nulle, j'étais nulle à l'école, je sais pas apprendre, je n'ai pas une bonne mémoire. Et en fait, si, juste en changeant la méthode et juste en utilisant le bon matériel, eh bien, ça fonctionne.
Et ce qui est assez incroyable aussi, je trouve, c'est que vous enseignez dans des classes avec des grands effectifs, alors qu'il y a quand même souvent cette fausse croyance que ce type de pédagogie n'est adapté qu'aux tout petits effectifs. C'est quelque chose que vous avez complètement réussi à relever et à vous adapter justement à ces grandes classes.
Oui, complètement. Et c'est une critique que j'ai parfois sur les réseaux sociaux. Et en fait, je me permets de le dire, à chaque fois de répondre, de dire, mais j'ai des classes de 30, en fait. J'ai des classes, parce que effectivement, dans les jours où les journalistes sont venus filmer dans mes classes, peut-être que c'était des classes plus petites, mais j'ai réellement des classes de 30 bouchers, de 30 boulangers. Dans une classe de boulanger, eh bien, vous avez 25% des élèves qui ne parlent pas français correctement. Vous avez 5 ou 6 élèves qui peuvent être dyslexiques ou avoir d'autres troubles de l'apprentissage. Vous en avez peut-être 2 qui sortent de lycée ou qui même ont parfois le bac et sont allés à l'université, mais en fait, se sont rendu compte qu'ils voulaient être boulangers. Donc, on a des classes au niveau de l'hétérogénéité. Je pense qu'en CFA, on a le max. Ouais. Moi, j'ai déjà eu des classes avec des élèves qui sortaient de quatrième et des élèves qui avaient eu une licence.
Ah ouais, c'est dingue.
Donc, il faut adapter. On peut pas faire le même cours. C'est pas possible. On peut pas faire un cours. Et donc, ce qui est intéressant avec le matériel de la classe autonome, c'est que pour certains ateliers, j'ai justement fait 3 niveaux. Par exemple, sur une carte de l'étude de Paris, j'ai un niveau, le premier niveau, c'est Phénix. Après, j'ai Dragon et Sphinx. Et donc, Phénix, ils ont vraiment une carte avec des questions très précises pour qu'ils arrivent à chercher sur la carte facilement. Les dragons, ils ont une étude de documents un peu plus poussée, c'est à peu près un niveau troisième. Et les sphinx, eux, ils ont une vraie étude de documents niveau bac, avec des grands textes, des questions très ouvertes. Et ils travaillent vraiment sur la même chose. À la fin, ils vont arriver à la même connaissance, mais avec voilà des choses qui sont adaptées. Et c'est ça qui est génial avec la classe autonome, c'est que comme tout le monde va à son rythme, eh bien les élèves qui sont très forts, ils vont aller très vite, ils vont faire tous les ateliers et ils peuvent avoir des ateliers bonus. Et les élèves qui sont en plus grande difficulté, ils vont pouvoir quand même travailler à leur rythme, sans que quelqu'un les pousse, sans que quelqu'un leur dise « Attention, là, il reste que 3 minutes pour faire la question », sans que le prof déroule et dise les questions, les corrections, sans que l'élève ait vraiment le temps d'essayer de faire l'exercice. Là, ils sont tout seuls. Ils sont face à la difficulté, ils sont face à l'exercice et ils font les choses.
Ah, et surtout, ils développent bien leur autonomie, ce qui
aussi,
est essentiel.
Oui, aussi.
Et il y a un autre préjugé qu'on entend souvent autour de ces pédagogies, c'est autour du coût du matériel. Qu'en fait, le matériel coûte très cher et que donc c'est quasiment impossible à mettre en place parce que ça demande des moyens financiers importants. Comment est-ce que vous y êtes prise? Est-ce que c'est des choses que vous avez fabriquées à la main? Comment vous avez réalisé l'ensemble de ces ateliers?
Oui. Le matériel coûte très cher, faux. Le matériel, oui, qui est déjà tout prêt, oui, ça peut coûter cher. Alors nous, on avait décidé d'investir, d'acheter les puzzles Montessori. Voilà, c'était un investissement qu'on avait fait au CFA. Et ensuite, on a construit énormément de choses à la main, en fait. Moi, j'ai fait tout ce que j'ai regardé de matériel Montessori que je voyais que je pouvais construire, je l'ai construit. Donc les flashcards, je les ai faites, je les ai découpées, je les ai plastifiées. Tout ce qui était puzzle avec des choses à replanter ou à refaire, je l'ai fait sur des planches de polystyrène. C'est le professeur de pâtisserie qui m'a coupé toutes les planches de polystyrène et on a fait ça. C'est pas cher, c'est de l'huile de coude et c'est de l'imagination. C'est imprimé, au lieu d'imprimer sur des feuilles, eh bien j'imprime sur des feuilles transparentes. Du coup, les élèves, ça crée des planches comme des planches effaçables. Ils peuvent refaire avec des stylos adaptés. Et puis, ils effacent, ils refont autant de fois qu'ils ont besoin. Et ça s'adapte pour tout. Hein. On peut le faire pour des schémas, pour des cartes, pour des documents où il y a des choses à entourer. Et c'est ça que je trouve super avec la classe autonome, c'est que c'est vraiment une philosophie. Donc, ça s'adapte à n'importe quelle matière et à n'importe quel niveau.
Et vous utilisez également les objets numériques, c'est ce que vous disiez au début, à l'aide de quiz. Pourquoi est-ce que vous avez intégré cela dans votre classe?
Oui, j'ai décidé d'utiliser vraiment tous les supports possibles. Donc, il y a autant des choses de manipulation qui sont inspirées de Montessori que de la vidéo avec des quiz, que des quiz sur téléphone, que de la réalité virtuelle. Et j'ai décidé de l'intégrer parce que c'est un outil pour moi qui est intéressant. Les quiz, c'est autocorrectif, donc les élèves peuvent tout de suite voir là où ils se sont trompés, là où ils ont réussi. Les casques de réalité virtuelle, ils adorent ça. Donc ça, c'est superbe. Et encore une fois, quand on revient sur l'idée du coût, C'est pas un problème parce qu'en fait, le matériel de la classe autonome, il est fait en 3 exemplaires. Pour tenir sur une classe de 30, je n'ai besoin que de 3 exemplaires. Donc, j'ai besoin que de 2 ou 3 casques de réalité virtuelle, contrairement aux classes où on va faire acheter dans un lycée 30 tablettes, 30 ordinateurs, etc. Maintenant, nous, en fait, tout le matériel, on n'en a besoin que de... Moi, quand je fabrique, je fais en 3 exemplaires souvent.
Ouais, c'est ça, parce qu'ils font pas tous la même chose en même temps.
Voilà, comme ils font pas tout le temps, ils font pas tous le même atelier en même temps. Eh bien, c'est ça qui fait que ça fonctionne, c'est ça qui fait que les coûts sont plus faibles. Et en fait, nous, notre classe autonome, elle nous a pas coûté très très cher. Hein. En tout, avec les casques de réalité virtuelle et tout ce que j'ai fabriqué pendant 3 ans, ça nous a coûté 2 000 euros qu'on a étalé sur 3 ans hein. Pour un CFA. C'est pas énorme hein, quand il faut changer le four du laboratoire de boulangerie. C'est pas la même, quoi. Donc, non, pour nous, c'était... Moi, quand je l'ai donné à ma directrice, tout de suite, elle a validé. Elle m'a dit, mais oui, il y avait... Ouais, la première facture, je crois que c'était 800 euros. Il y avait juste des boîtes. On a acheté des boîtes dans un magasin de meubles suédois. On a acheté du des feuilles pour plastifier. On a acheté quelques jeux. Je crois qu'il y avait des buzzers, mais là, on peut plus les utiliser avec la situation sanitaire, on avait des buzzers, on a acheté des jeux que j'ai détournés, comme le qui est-ce, le jeu de cette famille, les petites poupées russes, etc. Mais en vrai, c'est
voilà, c'est l'imagination surtout.
Oui,
comme
c'est de l'imagination. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont été inspirées par les professeurs des écoles que je suis sur Instagram ou que j'ai vu sur Internet. Et en fait, ils ont vraiment une imagination de fou. Et ils font des trucs de dingue. Donc il y a beaucoup beaucoup de choses qui m'ont été inspirées de du primaire en fait, et qui disparaissent très rapidement quand on arrive dans le secondaire. Alors que la classe autonome, moi je la fais avec des CAP, mais je la fais aussi avec des niveaux BP, donc c'est 2 ans après le CAP. Et dans mon agence de soutien scolaire, je le fais avec des élèves de terminale, des élèves de première sur les programmes du bac, de philo, de français, de géopolitique. Et en fait ça fonctionne très bien. Donc c'est une fausse excuse de dire que ça ne fonctionne que sur des petits niveaux.
Oui, il n'y a pas d'âge. Et je me demandais aussi autour de l'évaluation des élèves, parce qu'il y a aussi beaucoup de préjugés à ce sujet sur les pédagogies alternatives autour des évaluations. Et on sait aussi que c'est important de ne pas comparer les élèves entre eux, notamment pour leur confiance et surtout qu'ils aiment travailler pour eux. Comment vous, ça fonctionne les évaluations ?
Alors moi je suis obligée de faire des évaluations parce que je dois donner des notes, ça fait partie du cahier des charges du CFA. Donc on continue toujours à mettre des notes. Mais donc ils ont quand même une évaluation à la fin de chaque chapitre. En fait, ils ont une évaluation qui va reprendre un petit peu de chaque atelier de ce qu'ils ont vu. Ils ont des petites évaluations, des petits quiz à chaque début de cours. Et en fait, moi ce que je fais, c'est que je dédramatise beaucoup les notes. Ça ne tiendrait qu'à moi, il n'y aurait pas de notes. Mais et là, voilà, je suis obligée d'en mettre, mais je les dédramatise quand ils font le devoir sur table. Je leur dis, vous faites de votre mieux, vous ne trichez pas. Si c'est raté, ce n'est pas grave, vous pourrez le refaire à la maison. Je pourrais vous réexpliquer, on refera une moyenne des notes. Le but, c'est vraiment pas de vous mettre de mauvaises notes. Le but, c'est que vous appreniez avec avec plaisir. Et ça fonctionne très bien. Les élèves ne trichent pas vraiment. Parfois, ils ont 5, mais c'est pas grave. Et je leur dis qu'en plus, c'est important parce que moi, ça me permet de voir si mes ateliers sont correctement conçus. Donc, je leur explique vraiment, s'il vous plaît, ne trichez pas parce que sinon, je ne vais pas voir que peut-être il y a un atelier qui est passé complètement à l'as parce que je l'ai mal conçu ou peut-être j'ai mal expliqué quelque chose. Donc, quand je leur dis ça, du coup, ils comprennent la responsabilité qu'ils ont.
Mais c'est ça,
aussi
ça
dans la création de la classe
énormément.
Et ils savent que c'est eux qui testent aussi les ateliers, donc ils peuvent me redire s'ils n'ont pas compris ou s'il y a une faute ou s'il manque une correction quelque part, etc. Et ils sont aussi les co-créateurs de la classe autonome.
C'est génial. Alors Sylvie, je suppose que ça t'inspire énormément de choses et je suis certaine que ça te ravit énormément d'entendre ça parce que j'ai quand même l'impression que vous vous retrouvez sur de nombreux points. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, commenter ce qui a été dit ?
Ben non, moi je suis aux anges hein, quand j'entends des propos pareils. Je trouve ça extraordinaire parce que ce que je voulais dire, c'est quand même, c'est beaucoup de travail, je pense. parce que faut préparer tout ce matériel, comme vous dites, c'est l'huile de coude, il faut plastifier, découper, etc. Mais je pense que c'est beaucoup de travail. Mais l'intérêt aussi, c'est qu'on fait le travail une bonne fois pour toutes. Donc en fait, c'est comme ça dans nos classes, on prépare beaucoup les premières années, mais après, quand on a trouvé les systèmes qui fonctionnent, on a beaucoup moins de travail. Et puis quand on voit le bonheur des jeunes à apprendre de cette façon-là, puis le fait qu'ils apprennent aussi, puis qu'ils développent leur confiance en eux, on trouve ça extraordinaire. Mais moi, j'admire beaucoup ce que Juline a fait, parce que je pense qu'elle elle a tout créé, en fait. Donc elle a respecté tous les principes de la pédagogie Montessori, en plus avec l'autocorrection, ce qui est assez extraordinaire. Et quand je l'entends dire que les élèves ne trichent pas, mais je suis ravie, parce que c'est toujours ce qu'on me disait dans les formations, c'est « oh, ils vont tricher, ils vont regarder derrière, ils vont… » Et sa façon d'expliquer pourquoi ne pas tricher, je trouve ça fabuleux. Et c'est vrai qu'on peut leur faire confiance quand ils sentent l'adulte en face de lui qui est dans cet état d'esprit. En fait, ils ne trichent pas. Et ils ont compris qu'en fait, ils apprenaient pour eux, et c'est valable pour tous les jeunes. Il n'y en a pas où ça marche plus que d'autres, parce que ça, c'est aussi un commentaire qui nous est fait. Ah oui, mais celui-là, ça va marcher, mais l'autre, ça marche pas. Non, ça marche pour tous. Et puis, ce que disait Stéphanie sur les petits effectifs, moi, je suis complètement d'accord avec Juline. C'est-à-dire qu'on peut faire ça avec des classes de 30, 40 élèves. Ça marche, en fait. Oui. Et ça marche beaucoup mieux qu'une classe de 37 élèves avec un cours magistral.
Parce qu'ils sont en autonomie. Donc, il pourrait même y en avoir 60. Ah, voilà, ça fonctionnerait, ils sont en autonomie.
Exactement. Et puis, chacun peut aller à son rythme. Donc, chacun, il trouve ce qu'il recherche, en fait. Donc, il n'y a plus de problème de discipline, il n'y a plus d'enfants qui s'ennuient, il n'y a plus d'enfants qui sont laissés à la traîne. Et moi, je ne comprends vraiment pas pourquoi tout le monde ne travaille pas comme ça. Franchement, je ne comprends pas. Et c'est formidable
Les élèves le disent, moi. J'ai des élèves qui me disent, mais pourquoi on n'a pas toujours appris comme ça? Mais pourquoi? Bah, moi, si j'avais appris comme ça en primaire ou au collège, ben peut-être j'aurais fait un autre parcours scolaire. J'en ai beaucoup qui me le disent. Et c'est eux qui m'ont poussé vers le Global Teacher Prize. C'est à force d'entendre mes élèves me dire « Mais pourquoi j'ai pas toujours travaillé comme ça? Mais faut que tu apprennes cette méthode à d'autres personnes. »
Bien sûr.
C'est eux qui m'ont… Un jour, je me suis dit « Mais ils ont raison. En fait, il faut pas te garder pour soi. Il faut vraiment… » Et mes élèves de soutien scolaire, ils me le disent tout le temps. Ils me disent « Mais… » On aimerait tellement que les professeurs ils nous expliquent comme toi, ou ils aient cette méthode très pragmatique, en fait.
Le bel espoir, c'est que c'est de plus en plus en maternelle. Ça commence un petit peu en primaire. Mais oui. Bon, en collège, il y a encore beaucoup de travail à faire pour que ça devienne comme ça.
Oui.
Mais j'espère que petit à petit, les enseignants vont se rendre compte que même leur travail à eux est beaucoup plus agréable, en fait.
Complètement. Mais c'est ce que je dis aux…
Ouais. C'est difficile le collège pour certains enseignants, c'est très difficile.
Oui. Mais c'est ce que je dis aux…
Leurs conditions s'amélioreront à eux, quoi.
Exactement, on est beaucoup moins fatigué quand on fait de la classe autonome en tant que professeur. C'est-à-dire que ça demande un beau travail en amont, mais une fois que c'est dans la classe et que qu'ils sont en autonomie, on est beaucoup moins fatigué, les élèves apprennent plus, nous on enseigne moins, et c'est ça qui est drôle. Et effectivement, il n'y a plus de problème de discipline. Moi, je travaille quand même dans un CFA qui est dans un quartier difficile de Rouen, avec des élèves qui viennent de milieux sociaux très très divers. Et ma directrice, la première fois qu'elle est venue voir la classe autonome, elle m'a dit « c'est pas possible, vous nous avez changé ». Elle a vu des élèves qui étaient des élèves difficiles, qui étaient souvent convoqués dans son bureau, d'un seul coup, mais complètement travaillés, avec plaisir, avec le sourire, de l'histoire-géographie alors qu'ils étaient là pour faire de la charcuterie. Enfin, et elle me dit « mais c'est incroyable, parce que moi, j'ai vraiment beaucoup d'élèves qui n'aiment pas l'école ou qui ont été brisés par une école qui ne leur a pas convenu. » Et d'un seul coup, de changer de méthode, on les fait revivre, quoi.
Et par rapport à la formation des enseignants et au fait de partager au plus grand nombre la méthode de la classe autonome et les bienfaits, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est quelque chose que vous ambitionnez de développer? Je suppose qu'il y a des enseignants qui peuvent aussi regarder vos vidéos, voilà. Donc comment est-ce que des enseignants qui sont intéressés par votre méthode peuvent s'y former ou s'en inspirer?
Alors, effectivement, il y a déjà les vidéos que j'ai faites qui sont sur YouTube qui s'appellent Instant Pédagogie. J'ai quelques enseignants qui ont commencé la classe autonome à partir de ces vidéos et tous les retours que j'ai sont extrêmement positifs. Et donc, je suis ravie parce que j'ai, et de tout niveau et de toute matière, j'ai autant des professeurs de cuisine que des professeurs d'histoire, de maths, de sciences, d'anglais. Et donc, ils me disent, oh, c'est incroyable, c'est génial. J'ai même un collègue la semaine dernière qui m'a dit, mes élèves, ils veulent plus faire que de la classe autonome. Ils veulent plus que je fasse cours. Donc voilà, c'est super. Ça veut dire que ça fonctionne avec d'autres professeurs qui vont y mettre leurs pattes, qui vont l'adapter. Ça, c'est génial. Et puis je vais proposer effectivement des formations. Je propose de me déplacer en établissement sur demande d'un chef d'établissement qui pourrait vouloir former une équipe, enfin son équipe ou une partie de son équipe. Je peux aussi former des personnes, des professeurs à titre personnel. Ça, je suis en train de travailler dessus parce que j'aimerais pouvoir avoir une formation qui soit certifiée pour que ça soit finançable par le CPF ou d'autres choses ou des établissements. Mais oui, je propose des formations. J'interviens dans des colloques, dans des conférences, des congrès, des salons si les personnes, j'ai des demandes pour intervenir. Et ça, c'est sur mon site internet. Il y a les trois offres de formation, donc je vais le faire. Et puis j'espère pouvoir peut-être écrire quelque chose sur ça. Je vais continuer à faire des vidéos sur YouTube sur la classe autonome. Il y a la page Instagram sur laquelle on voit vraiment le matériel, la classe autonome tous les jours. Tous les jours, je mets des photos sur Instagram de ce qui se passe dans les cours. Donc là, ça permet d'avoir quelque chose de concret, de voir un atelier concrètement comment ça fonctionne, sachant qu'il y a beaucoup d'ateliers. Ce sont des choses que j'ai vues dans des manuels scolaires et ce sont des études de documents tout à fait classiques, hein, qu'un professeur ferait de façon très classique. C'est juste que là, il est en atelier, que l'élève a la correction dans son classeur, dans le classeur correction, qui peut se corriger lui-même, et que c'est lui qui le fait tout seul à son rythme, ou peut-être avec son camarade à côté qui va l'aider. Et les élèves aiment beaucoup beaucoup travailler en groupe, surtout à cette époque-là. Je crois que Maria Montessori a appelé ça l'âge social. Vous me dites si je me trompe.
Oui, tout à fait.
Et je crois que c'est ça, les adolescents. Voilà. Donc moi, j'ai voulu absolument faire ça. Ouais, de faire
et
ça.
Ils ont besoin de projets et tout ça, c'est ce que vous faites.
De projets. Et ça, on l'a fait aussi. Alors, c'est pas dans la classe autonome, mais on a un projet sur l'année qui est le thème de l'année. Là, cette année, c'est l'Irlande, par exemple. Et les élèves doivent monter un stand chacun pour les journées irlandaises qu'on va faire au mois d'avril. Voilà, donc vraiment pédagogie par le projet, ensemble, en groupe. Ils font tout, hein. Ils font, alors c'est des pâtissiers, des boulangers, des charcutiers, donc ils créent quelque chose vraiment de leurs mains qu'on va déguster. Et puis ils font aussi les décors, ils les peignent, ils les dessinent, ou ils les font sur ordinateur. Ils achètent les petits drapeaux pour décorer leur stand, ils se costument, ils se maquillent, etc.
Super. Eh ben, je vais vous poser une dernière question pour clôturer cette conversation. Est-ce que vous auriez peut-être un dernier mot à partager pour les enseignants ou même les parents qui hésitent à offrir ce genre de méthode à leurs enfants? Qu'est-ce que vous voudriez leur dire? Est-ce qu'il y a des bienfaits qu'on n'a pas évoqués qui sont importants de mettre en avant par rapport à cette méthode miraculeuse?
Pour moi, le conseil, c'est essayez-le, parce que l'essayer, c'est l'adopter. Là, je vous dis, j'ai des retours de profs qui l'essayent et qui me disent, c'est génial, ça fonctionne super bien. Les bienfaits, c'est voilà, l'élève, il va retrouver la confiance, il va prendre le temps d'apprendre lui à son rythme, il va aider les autres, et on sait qu'en aidant les autres, parfois en expliquant à quelqu'un d'autre, eh bien, on apprend soi-même aussi. On vérifie qu'on a ancré réellement la notion. Ça apprend voilà la solidarité, l'entraide, la curiosité, mais ça apprend aussi également le dépassement de soi, la difficulté, la responsabilité. C'est pas que de la liberté, hein. Dans la classe autonome, il y a des responsables tous les jours qui doivent vérifier que le matériel est bien rangé, que les tables sont propres, que les chaises sont bien rangées. On a la responsabilité par rapport au matériel, de faire attention, de ne pas le casser, parce que c'est fait à la main, hein. Donc c'est des cure-dents, des feuilles plastifiées. Donc ils ont aussi l'apprentissage de la responsabilité. Et puis le fait qu'on leur fasse confiance à cet âge-là, c'est, pour moi, c'est un vrai cadeau qu'on leur fait. Parce que je pense que de leur faire confiance et de les considérer, ça crée forcément une bonne relation de confiance en retour, eux. Moi, j'ai pas de problème vraiment d'élèves qui cassent du matériel ou d'élèves qui pourraient voler des choses ou de problèmes de discipline. C'est cette confiance que je leur donne, et eh bien ils en retour, ils ont un comportement qui est vraiment très agréable. Et Dieu sait que j'ai des classes difficiles, mais vraiment, parce que j'ai eu des retours comme ça où on m'a dit oui, mais c'est parce que c'est pas des milieux difficiles, c'est pas des classes de ZEP, etc. Si, le quartier. Regardez sur une carte où se situe le CFA Simone Veil de Rouen, vous allez vite comprendre.
Voilà. Mais merci beaucoup, Juline. On va très vite venir regarder votre classe parce que ça donne trop envie. Et bravo pour tout ce que vous faites. C'est merveilleux.
Merci beaucoup. Merci à vous de le partager, de le diffuser. C'est superbe. C'est un beau cadeau que vous me faites. Voilà, parce que c'est vrai que moi, aujourd'hui, mon but premier, c'est de le diffuser parce que j'en ai marre de voir des élèves en souffrance à l'école. Ça devrait être un plaisir.
Ça, c'est sûr.
Ça, c'est vrai.
Merci beaucoup, à bientôt.
Merci.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcasts. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleps.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil Sylvie Desc, D-E-S-C, -du-bas, Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.